おかしいおかしい。
C'est le peuple congolais à la présentation Jean-Claude Toumbaké Manga.
Bonsoir. Un seul sujet dans la tribune de la presse de ce vendredi, c'est bien les derniers affrontements à Kinshasa entre les FARDC et la garde rapprochée du sénateur et ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba. Nous abordons ce sujet qui a dominé l'actualité de la semaine sous différents aspects avec ses conséquences sur le plan politique, économique, humanitaire et même diplomatique. Les invités dans la tribune de la presse, comme vous le savez, sont des journalistes et nous recevons Sonia Mugalu de Horizon 33 Télévision, Prince Nzaou de Radio-Télé Matadi au Bas-Congo, Arnaud Weissmann de BBC, qui est notre confrère de la presse internationale, et Benoît Cambéré du magazine catholique Renaître. Bonsoir à tous nos chers confrères.
Bonsoir.
Sans transition, nous démarrons cette tribune de la presse par l'explication du président Joseph Kabila sur les derniers événements de Kinshasa. Au lendemain de ces affrontements de la capitale, le président Joseph Kabila s'est expliqué devant la presse. Il a justifié le recours à la force. Pour lui, c'était pour restaurer la loi. Quant aux inquiétudes et critiques contre son pouvoir sur une éventuelle tendance vers la dérive dictatoriale visant à museler l'opposition, Joseph Kabila rejette ces accusations. On l'écoute dans cet extrait de son dernier point de presse au Palais de la Nation.
Les enjeux constitutionnels, la sécurité des personnes et de leurs biens, madame, les députés, ils peuvent être tout à fait à l'aise. Il y a eu effectivement, certainement, des dérapages ici et là, mais ce n'est pas seulement au Congo, en Irak, souvent il y a des dérapages de la part de l'armée, service de sécurité, en Afghanistan et ailleurs. Alors, à ma connaissance, j'ai vu d'ailleurs à la télévision nationale la réunion du président du groupe parlementaire et j'ai vu les membres de l'opposition. C'est très bien. Maintenant, la télévision ou soit les médias de l'opposition, eh ben, je ne suis pas informé, je ne suis pas au courant, mais il faut poser cette question au ministre d'information, au ministre Chilombo. Contrairement à la Constitution d'ailleurs, je serai la dernière personne à violer la Constitution, ainsi qu'un parti unique dans ce pays s'élève de la haute trahison.
Oui, Sonia Mugalu de Horizon 33 Télévision, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui étiez d'ailleurs à ce point de presse, je signale, qu'est-ce que vous pensez des promesses du président Kabila quant à la place de l'opposition politique ?
Eh bien, je voudrais respecter sa parole. C'est son point de vue, il estime que, et disons, ce n'est même pas son point de vue constitutionnel, comme lui-même il a eu à le souligner, l'opposition, elle est constitutionnelle, il faudrait laisser à l'opposition sa place, il ne faudrait pas, de quelque manière que ce soit museler l'opposition, essayer d'étouffer l'opposition. Il faut laisser à l'opposition de s'exprimer librement. J'estime que s'il a réellement le souci de la démocratie, il faudrait bien qu'il respecte sa parole, parce que là, il est aujourd'hui le chef de l'État élu. Il ne faudrait pas que, comme pense une certaine opinion, qu'il soit dictateur un jour, qu'il empêche à l'opposition de s'exprimer. Et j'estime qu'il va il va se disposer pour que l'opposition puisse exercer librement exprimer librement ses points de vue et il va d'aucune façon s'interposer. J'espère bien qu'il va tenir.
Benoît Cambéré, vous êtes du magazine Renaître, magazine catholique.
Je signale que je n'étais pas invité à ce point de presse. J'ai constaté qu'il y avait une vingtaine de journalistes de la RTNC et leurs alliés.
Vous l'avez quand même suivi.
Oui, j'ai suivi, mais je me dis, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a problème. Je constate, et le chef de l'État l'a dit, certains médias qui ne sont pas de l'obédience du pouvoir sont fermés. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois.
Là, vous pensez à Canal Kin, CCTV,
entre autres. Ce n'est pas la première fois et c'est toujours de la même façon. Là, j'ai entendu le ministre en charge de l'information donner des explications qui, entre nous soit dit,
ne tiennent pas la route, parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive, et on sait comment on coupe les signaux ici. J'aurais même appris que nos confrères de Molière Télévision seraient aussi menacés, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas donner un espace à l'opposition. Ça, c'est un. De deux, la télévision dite nationale, la radio télévision nationale, on sait de quel bord elle est et qui elle reçoit. C'est un seul son de cloche et je ne vois pas où l'opposition va. Peut-être au Parlement quand le quart de reportage de la RTNC va venir pour peut-être relayer les débats. En dehors de ça, on n'invite pas une certaine presse, comme ils appellent. On muselle la presse dite de l'opposition.
On l'invite pas où?
Au champ d'information. Quand il y a une information, en principe, on devrait inviter tout le monde. Mais là, on fait des invitations sélectives. On peut se poser la question.
Voilà. Donc, quand vous entendez parler, en fait, vous ne semblez pas croire dans l'engagement.
Je voudrais bien voir comment ça va venir, parce que il y a eu malheureusement beaucoup d'engagements dans ce pays qui ne sont jamais respectés. Alors, j'ai le droit d'en douter.
Arnaud Weitmann, est-ce que à ce stade déjà dire ou accuser ou prêter même des intentions au président Kabila, aux autorités congolaises, de vouloir museler l'opposition, est-ce que ce n'est pas aller un peu vite en besogne?
Pour moi, je pense qu'il y a d'abord il y a la question des abus de pouvoir opérés par les forces de l'ordre pendant les affrontements. Je pense que c'est un peu rapide, balayer ça d'un revers de la main en disant bon, en Irak, en Afghanistan, il y a aussi des abus. Il y a des abus, c'est vrai, mais on sait aussi que, par exemple, pour ce qui est de l'Irak, on a vu des militaires américains passer au tribunal, être jugés pour leurs actes, notamment pour les comportements dégradants à l'égard de certains prisonniers irakiens. Et c'est la justice qui a pris en charge ces affaires-là. Ici, moi, j'ai eu des témoignages directs de gens qui ont vu des proches eux se faire abattre. J'ai un témoignage d'une personne qui a vu quelqu'un d'autre se faire abattre par un membre de la garde présidentielle qui lui dit, des gens qui fuyaient à un moment pendant les combats, « Toi, tu es qui? Tu as voté pour qui? Ah, tu as voté pour Bemba? Non, 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 moi, je ne connais pas Jean-Pierre. » On l'abat comme ça, sur place, à l'hôpital ici, à l'hôpital général, il y a des jeunes gens des rues qui ont reçu des balles dans les jambes, aussi pareil, vous êtes pour Bemba, on vous met des balles dans les jambes, comme ça, on est sûr que vous n'allez pas pouvoir prendre des armes, ou bien d'une façon de neutraliser les gens. C'est des méthodes quand même qui soulèvent des interrogations sur la manière de gérer. C'est vrai que le pouvoir a été menacé. Maintenant, c'est pas pour ça que quand les ambassades de l'Union Européenne se plaignent d'un usage disproportionné de la répression, de la force, je pense que c'est vrai que ça soulève des doutes, des interrogations. Maintenant, pour revenir au point que soulevait mon confrère ici, c'est vrai qu'on s'aperçoit ici, au niveau de la présidence, qu'il y a des journalistes qui sont invités à chaque fois, d'autres qui ne sont pas, d'autres qui doivent chaque fois se faufiler pour avoir accès.
Mais vous étiez là, Arnaud.
Moi, j'étais là, mais toi, tu sais, on m'avait pas prévenu, par chance, quelqu'un m'avait prévenu, donc j'ai pu, la fois d'avant, j'étais toi, mais personne ne me prévient. Alors, heureusement qu'on connaît des gens. Alors, le matin, on apprend, non, il y a un point de presse, alors on est obligé d'appeler les amis pour s'assurer qu'on soit, bon, finalement, ça va, je dis pas qu'il y a une mauvaise foi, mais je trouve qu'il y a quand même des traitements un peu différents selon les journalistes et leur degré d'indépendance.
Et vous étiez même autorisé à poser des questions quand même.
Effectivement, j'étais autorisé à poser des questions parce que j'étais dans la salle et j'étais d'ailleurs très ravi de ça.
Voilà, nous avons en ligne de Matadé. Oui, Sonia, nous allons vous
entendre en trois. Oui, j'aimerais quand même réagir par rapport à ce que viennent de dire les confrères. Moi, je ne sais pas si je vais dire la même chose parce que je me rappelle que quand je suis arrivé à la présidence pour le fameux point de presse, on m'a dit qu'il y avait quelques journalistes de l'autendance, si je puis appeler ça comme ça.
Il y en a une,
c'est-à-dire celle qui n'est pas l'attendance du chef de l'État, il y en a une qui était là, que j'ai vue de mes propres yeux, qui a tourné, je ne veux pas citer son nom parce qu'elle ne m'a pas autorisé de le dire, elle était là pourtant, et puis elle s'est déplacée, ça disant qu'elle revenait, et qui n'est plus revenue. Pourtant, elle était prévue. Bon, je ne sais pas, s'il faut qu'on dise qu'on n'a pas invité l'autendance, moi je ne pense pas. Il faudrait quand même qu'on essaie d'être en
place. Bah, en tout cas, le Barré, il n'était pas invité.
Bon, on n'a pas invité tout le monde. Si on n'a pas invité de loi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas invité tout le monde.
On ne
va pas non plus inviter tout le monde.
Le potentiel.
On va revenir.
Le potentiel n'était pas là, le phare n'était pas là, pour ne citer que deux exemples.
Bon, c'est pas le sujet du jour, Benoît. On va aller à Karmatadi, où il y a Prince Nzaou de Radio Télé Matadi. Prince Daou, votre avis sur les propos du chef de l'État et son engagement par rapport à la place de l'opposition politique?
Bon, j'aimerais bien croire au chef de l'État, j'aimerais bien, mais vous savez, les faits sont têtus. Et l'histoire nous apprend que très souvent, c'est par de faits similaires que la dictature s'impose. Je ne dis pas que le chef de l'État commence déjà à être dictateur, mais il faudrait qu'il soit quand même prudent et qu'au niveau de son entourage, on essaie un peu de chaque fois de bien analyser les faits avant de réagir. Vous savez, nous venons d'une situation de crise. Il y avait la guerre, la rébellion. Ensuite, il y a eu un consensus, la transition. Nous venons de cet état des choses. Et du coup, le chef de l'État, Joseph Kabila, est élu pour le tout premier mandat de la Troisième République. Je me dis qu'il faut, du jour au lendemain, faire table rase sur le dialogue. Nous sommes mal partis. Nous sommes vraiment mal partis, surtout quand on sait, jusqu'avant les événements, le sénateur Bemba avait encore sa garde rapprochée, et même le vice-président, l'ancien vice-président,
Robert Roy,
avait encore sa garde rapprochée. Dans ce contexte-là, je me dis, on est allé un peu trop vite. Surtout qu'il y avait d'autres dossiers plus importants. Je me dis, pourquoi il fallait agir ce jour-là. Peut-être que le pouvoir avait des informations sur une certaine action des hommes du sénateur Bemba. Ça, peut-être, je le dis, peut-être. Bon, mais est-ce que c'était important? Est-ce que la population chinoise ou la population de la République démocratique du Congo a besoin de ce genre de spectacle macabre?
Oui, Prince Ndaou, vous citez l'entourage du président de la République. Vous avez l'impression que il ne conseille pas très bien le chef de l'État, ou du moins sur ce fait-là?
Je prends l'exemple de ceux dont, on vient de parler, même si ce n'est pas vraiment ça le sujet, mais les confrères, le point de presse. On invite les journalistes, on dit que la presse nationale est valablement représentée. Je vous dis, il n'y avait pas un journaliste qui est venu de l'intérieur. Or, vous savez qu'il y a eu l'affaire BDK, Bunduya Congo. J'aurais aimé qu'il y ait un journaliste du Bas-Congo qui puisse au moins poser une question pertinente au chef de l'État, parce que nous sommes ici et nous vivons les faits. Kaemba, je me dis qu'il y a des journalistes au Bandundu qui sont mieux informés que les journalistes des Kinshasa qui se contentent des informations des secondes. Et je me dis, quelque part, il y a un problème. Et quand c'est la RTNC qui a battu le record des journalistes présents, on se pose des questions.
Voilà, on a compris, Prince Ndaou, on va évoluer cette fois pour voir un peu dans le camp du MLC, parti du sénateur Jean-Pierre Bemba. On prend acte des promesses du président de la République. Le sénateur Romain Nini attend encore que le gouvernement prouve son engagement à laisser libre expression à l'opposition par des faits. Écoutons à son tour le sénateur Romain Nini du MSC et Union pour la Nation.
Je suis d'abord heureux d'une chose, c'est que l'ordre reconnaît la nécessité d'une opposition, la nécessité de la protection de cette opposition pour que la démocratie fonctionne. C'est une très bonne chose. Maintenant, le jeu de l'opposition, c'est que ces proclamations de foi soient suivies des faits. Tant mieux si dans les faits, le pays évolue comme cela. Je suis congolais, j'en serais heureux pour mon pays. Mais ce que je veux dire, comme j'ai dit au début, et le président de la République l'a reconnu en parlant de dérapage, il y a certains signaux qui inquiètent. Certains membres de mon parti ont été pires. Je suis très ici. Le président François Mamba lui-même, mais pour être franc et honnête, je ne parlerai pas d'une tendance répressive, pas encore. Je peux dire que la plupart d'entre nous n'avons pas subi de tracasserie, il faut être honnête pour le dire, et je ne peux pas déduire de ces quelques faits une volonté manifeste de nuire à l'opposition. Et mon vœu, c'est que, dans les faits, l'opposition soit réellement sécurisée.
Benoît Cambéré du magazine catholique Remettre, vous venez de suivre là un membre de l'opposition qui dit que parler déjà de tendance à la répression répressive, ça serait aller trop vite.
Ben, écoutez, c'est son point de vue, je le respecte. Moi, je parle des faits. J'ai un mauvais métier. Moi, je ne prends que les faits. Là, je vous ai dit, j'ai constaté que certains confrères ne travaillent plus. Comme il fut un moment, certains confrères n'ont pas travaillé, et de la même façon, on peut se poser des questions, hein, tout simplement. Je constate qu'on dit qu'on respecte, il y a eu des dérapages. Arnaud l'a dit tout à l'heure, on aurait bien voulu voir, parce que malheureusement, il y a des gens qui détiennent des preuves, il y a des gens qui ont filmé, des gens pillés dans cette ville, qu'on amène, et c'est là qu'on sentirait que la récréation est finie, par exemple.
On sait qui a pillé. On sait où sont les biens qui ont été pillés dans la ville actuellement. Ce serait bien que, à titre d'exemple, on aille prendre des militaires dans certains camps de la ville, qu'on remette les biens qui ont été pillés, on sait où, et là, ce serait bien commencé. Parce que c'est bien, dérapage, et puis, dérapage, on s'arrête là, ben, je pense qu'on n'est pas trop avancé, me semble-t-il.
Oui, Arnaud Weidmann, comment vous jugez, vous, l'attitude de Roménini du MLC?
Écoutez, je crois que le MLC est dans une posture quand même assez difficile pour l'instant. On s'aperçoit qu'il faut, moi j'ai vu François Bouamba qui dit qu'il ne s'opposerait surtout pas en contradicteur du chef de l'État. Donc pour l'instant, le MLC marche tout sur les jeux, sur les œufs, il me semble. Il leur fait quand même en posture très difficile. On ne sait pas très bien ce qui va devenir de lui. Est-ce qu'il va pouvoir quitter le pays pour aller faire soigner sa blessure au Portugal, comme il l'a indiqué, ou comme l'ambassadeur de la Tradition des Nations Unies l'a indiqué, ou pas, ou est-ce qu'il va être retenu par la justice congolaise, est-ce qu'il va devoir répondre de ses actes devant la justice, comment est-ce que le parti va continuer à exister après la mort politique, disons, de Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est quand même des questions, et il me semble que pour l'instant, le parti, le MLC, est dans une posture assez difficile.
Et vous pensez que c'est ça qui justifie un peu ce discours conciliateur?
Il me semble que pour l'instant, le MLC a un discours très conciliateur. Je pense que le sénateur, le chef du MLC, s'est peut-être engagé dans un bras de fer dont il n'avait pas prévu l'issue, en disant que non, il ne remet pas ses gardes, qu'il faut négocier, il faut des pourparlers. Bon, l'état-major de l'armée avait donné des ordres. Constitutionnellement, il n'y avait plus de raison d'avoir autant de gardes. Et puis on est arrivé dans une situation absolument terrible, avec de nombreuses vies humaines qui ont été perdues. Donc aujourd'hui, il me semble que le MLC reste assez timide, et il me semble d'ailleurs que c'est peut-être pas très bon pour l'opposition ici d'être représenté par des hommes politiques qui ne sont pas en mesure de défendre les droits des gens, d'avoir un langage libre, on attend quand même d'un opposant qui puisse taper du poing sur la table. On a vu certains opposants faire ça ici dans ce pays. Aujourd'hui, on a une opposition qui est craintive, qui est timorée, qui marche sur des œufs, qui se rend compte qu'on vient de sortir d'une situation tellement épouvantable qu'il me semble qu'ils ne sont pas vraiment en mesure d'agir et de parler librement, en tout cas autant qu'ils le voudraient ou autant que leurs électeurs l'attendraient d'eux, peut-être.
Et c'est Sonia Mogalou de Horizon 33, est-ce que c'est votre avis?
Non, moi je dis que non tout de suite. Parce que quand je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et même au Sénat, je vois comment l'opposition s'exprime. J'ai vraiment aimé particulièrement l'intervention de l'honorable Cécilin et de l'honorable François Lamba.
Avant les événements,
ce oui, excusez-moi, avant les événements, évidemment, mais ce n'est pas fini, parce que quand même, après les événements, ils ont eu à faire aussi des déclarations pour donner leur point de vue sur les événements. Tout le monde déplore les morts. C'est un fait. Tout le monde n'acclame pas les événements, que ce soit l'opposition ou que ce soit l'autre côté. Tout le monde n'est pas content.
Il y a des gens qui sont triomphalistes.
Non, ne vous en faites pas. Uh-huh. Ne vous en faites pas. Face aux morts, on n'est jamais triomphaliste.
On ne devrait pas être triomphaliste.
Je ne sais pas qui exactement vous avez écouté, mais moi, pour avoir écouté certaines personnes de part et d'autre, j'estime que personne n'est heureux de la situation présente. Personne ne se réjouit de ce qui s'est passé. Qu'on aurait évidemment évité. Personne n'aurait souhaité qu'il y ait des morts, surtout pour les morts. Ça, c'est très important. Il y a eu plusieurs morts.
Oui.
Plus de 200. On est entre 200 et 600.
Oui.
Le chiffre exact, on ne le connaît pas encore parce que nous, en fait, pas jusqu'à présent, on continue à ramasser les morts.
Oui, on va arriver au bilan, oui.
Dire que l'opposition ne s'exprime pas, moi, je pense pas. Je pense, peut-être un tout petit peu comme dit Arnaud, c'est peut-être encore trop prématuré pour l'opposition d'éclater en ce moment, parce qu'il y a une situation très délicate. Leur chef de file, on va reconnaître que Jean-Pierre Bemba est quand même leur chef de file, après les élections, il a eu 42%,
oui.
Aujourd'hui, il tient l'opposition. Bon, il est dans une situation très délicate, encore qu'il doit aller se faire soigner. Peut-être que l'opposition attend, après le retour de Jean-Pierre Bemba, nous espérons qu'il va revenir, lorsqu'il va aller se faire soigner, et il va s'organiser, parce qu'il y a une réelle question d'organisation, de réorganisation de l'opposition.
Okay,
si Jean-Pierre Bemba ne revient pas, qu'est-ce que va devenir l'opposition? Ils doivent s'organiser. Donc, ils doivent savoir ce qu'ils vont dire. Ils ne vont pas parler pour le plaisir de parler, mais ils doivent mûrir ce qu'ils auront à dire à la population.
Merci, Sonia Mogalou. Sur un autre aspect, ces événements ont eu notamment un effet néfaste sur les activités de certains opérateurs économiques, mais pour aider le gouvernement, le patronat congolais décide de prendre en charge les dégâts matériels et s'apprête à reprendre le travail. Le gouvernement s'était pourtant proposé d'indemniser et de procéder à l'allègement fiscal des opérateurs économiques victimes de pillages et casses. La Fédération des entreprises du Congo, elle, sollicite plutôt d'autres avantages, tels que le report des déclarations fiscales d'un mois. Ils l'ont dit au cours d'une réunion qui a regroupé les ministres du secteur économique, la FEC, l'ANAPECO et la COPEMECO. Il était question au cours de cette réunion d'évaluer les dégâts et les conséquences économiques des affrontements du 22 au 23 mars dernier. On écoute le président de la FEC, Albert Yuma Mulindi, au micro de Jocelyne Moussaoukoulé.
Nous avons remis au gouvernement une liste d'entreprises qui a été touchée et qui a connu des dégâts matériels importants. Ces dégâts sont en cours d'évaluation. Nous ne voulons pas prendre aujourd'hui le prétexte de ces événements malheureux pour commencer à demander à un État qui cherche des moyens à être indemnisé. Nous avons assuré le gouvernement que nous nous remettons immédiatement au travail. Toutes les entreprises touchées aujourd'hui se sont remises au travail. Elles vont prendre elles-mêmes en charge les dégâts matériels qu'elles ont subis pour montrer notre solidarité, non seulement avec le gouvernement, mais avec le peuple. Parce que c'est nous qui créons les emplois, c'est nous qui créons la richesse. Si nous arrêtons de travailler, si nous attendons que le gouvernement nous indemnise, c'est la population qui sera frappée. Beaucoup d'entre nous vont faire appel à leurs assurances, d'autres vont prendre le fonds propre, reconstituer les stocks, reprendre leur activité, mais nous avons dit, il faut permettre à ces opérateurs économiques qui ont été perturbés dans leur travail administratif d'avoir un délai pour analyser la situation. Et donc, nous avons demandé officiellement au gouvernement le report de la date de dépôt des déclarations fiscales de un mois.
Oui, Prince Nzaou de RT Matadi, comment vous appréciez cette attitude qu'on qualifierait par certains de patriotique des opérateurs économiques, donc de l'AFEC?
Non, non, mais je me dis que c'est quelque peu paradoxal. Je ne sais pas comment l'AFEC en est arrivé là. Je me demande si cette fête-là n'est pas, en fait, une fête un peu trop pouvoir. Franchement, logiquement, je me dis que les opérateurs économiques devraient avoir une autre réaction, logiquement.
Laquelle, par exemple?
Le gouvernement, pour moi, le gouvernement devrait indemniser tout ce monde. Voilà. C'est logique, non?
Voilà.
Le gouvernement. Et quand j'écoute la tête dire que non, tout ça, ils vont prendre en charge tout ça, non, 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 je n'arrive pas à comprendre.
Voilà. Bernard Cambéré, Prince Ndaou n'arrive pas à comprendre l'attitude de la FEC. Est-ce que la FEC n'a pas ciblé ses besoins et demande peut-être mieux que ce que le gouvernement propose, tout en aidant encore le gouvernement?
Non, je peux dire que, écoute, Prince Ndaou s'étonne à juste titre. Je comprends, le gouvernement commence, je comprends, le gouvernement a peu de moyens en ce moment, mais en fait, logiquement, le gouvernement devrait indemniser. Parce que c'est la gestion par le gouvernement de cette situation qui a amené ce qui est arrivé. En principe, le gouvernement devrait indemniser. Maintenant que la FEC estime qu'elle a les moyens pour indemniser ses sociétaires, bon, on peut comprendre, et je serais heureux que la FEC aille, par exemple, maintenant, aider également. C'est vrai, ce ne sont pas ses sociétaires. Si elle a les moyens d'indemniser ses sociétaires, qu'elle aide aussi les pauvres familles qui, maintenant, n'arrivent pas à... Moi, mes enfants étudient dans des écoles de la périphérie. Et je ne vous dis pas ce qui s'est passé ce jour-là, quand je suis allé retirer mes enfants au collège Boboto et au lycée Bossangani. Je serais heureux que la FEC jette aussi un coup d'œil par là. Il y a eu des obus, il y a une jeune petite fille qui est blessée, qui est en ce moment-ci à la clinique Ngaliema, qui a reçu une balle et qui ne trouve pas de quelqu'un pour l'aider. Si la FEC a les moyens et qu'il comprend que le gouvernement n'a pas les moyens, qu'il jette aussi un coup d'œil par là, ce serait une bonne chose.
Mais la petite fille n'est pas membre de la FEC,
ça. Oui, bien sûr, mais c'est malheureusement une victime innocente.
Oui, Sonia Mugalu de Horizon 33.
Eh bien, je pouvais aussi réagir un petit peu comme mes prédécesseurs, mais moi je dis, c'est vrai, le gouvernement devait, c'est bien conjugué, devait. C'est pas le cas. C'est pas le cas, pourquoi? Parce que le gouvernement n'en a pas les moyens. Le ministre des Affaires Sociales que je suis hier, l'autre qui remettait les cercueils, aux familles des victimes à la mort de l'hôpital général. Il a bien dit, nous sommes même incapables d'enterrer ces morts, nous ne pouvons pas indemniser les familles. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Déjà qu'on n'est pas en mesure d'indemniser les familles des victimes, à combien de fortes raisons les entreprises qui ont perdu leurs biens, qui ont été pillées. Moi, je dis, il n'y a pas que les entreprises membres de la FED qui ont été pillées, il y a même d'autres pauvres marchands. Moi, j'habite la ville, excusez-moi, moi, j'ai vu quand on pillait. J'étais chez moi, je pouvais voir de ma fenêtre. J'ai éteint toutes les lumières, je pouvais voir ce qui se passait dans la ville. Il y a des pauvres commerçants qui ne sont pas membres de la FEC, les pauvres gens qui se débrouillent, qui avaient leurs biens cachés, qui dans un poste de police, qui, même dans leur magasin, qui avaient laissé leurs biens, on a tout pillé. Aujourd'hui, ils ne sont pas membres de la FEC, la FEC ne va pas les indemniser. Donc, ils seront obligés de reconstituer les débris et d'essayer de se refaire, d'essayer de recommencer la vie. Mais, pour l'instant, le gouvernement n'a pas ses moyens. Si la FEC prend en charge, tant mieux, au moins qu'ils essayent de faire un effort pour que cette situation ne se répète plus. On a vu les événements de Christ en mémoire en 91 et 93, avec les pillages. Aujourd'hui, ceux qui ont pillé, c'est encore nos pauvres enfants. Malheur à nous, parce que nous devons essayer de rééduquer notre population, parce que c'est les chiens qui ont pillé. C'est aussi les militaires, tant de Jean-Pierre Bemba que des forces loyalistes, parce que moi, j'ai vécu ça, s'il vous plaît. Je ne raconte pas ce que j'ai appris, mais ce que j'ai vécu. Donc, il faudrait corriger la mentalité des Congolais d'abord, pour qu'on ne retombe plus dans cette affaire.
Oui, Arnaud Reitman, là, c'est par rapport, justement, à l'attitude de la Fédération des entreprises du Congo. Oui.
Moi, je suis d'accord avec Sébastien pour dire que c'est un peu secondaire. Je pense que le plus important, c'est l'indemnisation des victimes et de leurs proches. Et là-dessus, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas non plus. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent. Pour faire la guerre, il y avait l'argent. Hein. Là, pour les munitions, il y a l'argent. Pour indemniser les gens, tout à coup, il n'y a pas d'argent. Donc, je dois peut-être qu'il faudra tout revoir.
Priorité.
Oui, voilà.
Bon, ok.
Il y a des priorités, il y a la reconstruction, et puis il y a les 5 chantiers. Donc, tout ça, il y a de l'argent qui vient pour, même l'argent qui vient pour les 5 chantiers, ça servira à qui? Toujours à la même population.
Il y a l'argent qui est venu pour la guerre, Antonia?
Non, mais l'argent qui est venu pour la guerre, moi je ne sais pas le dire, je ne suis pas un militaire, je ne suis même pas dans l'armée. Certainement, c'est avec leurs munitions qu'ils ont toujours eues, qu'ils ont dû faire la guerre. Ça, je n'en sais rien.
On va poursuivre cette tribune de la presse. Je rappelle que nous avons un seul sujet dans cette tribune. Ce sont les derniers affrontements de Kinshasa entre les FARDC et la garde rapprochée du sénateur et ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba. Et nous recevons dans ce studio Sonia Mugalu de Horizon 33 Télévision, Prince Zaou qui est lui intervient au téléphone à partir de Matadi, il est de la radio Télé Matadi. Benoît Cambéré du magazine catholique Renaître et notre confrère de la presse internationale Arnaud Weitman de BBC. Dernier volet de cette tribune sur le même sujet, c'est la condamnation des diplomates de l'Union européenne. Ils ont dénoncé dans leur déclaration l'usage prématuré de la force par les autorités congolaises. On écoute l'un d'entre eux, l'ambassadeur britannique Andy Sparks, extrait tiré de son intervention dans le dialogue entre Congolais de mercredi dernier.
C'est normal et naturel que nous soyons fermes étant donné ce qui se passait. Nous n'avons pas eu, jusqu'au point où les armes lourdes ont été lancées et tout cela a éclaté, nous n'avons pas eu des affrontements où les civils se trouvaient devant les militaires du côté de M. Bemba, qui les menaçaient, qui les a tués, quelque chose comme ça. En vive action, on aurait compris pourquoi c'était nécessaire pour le pouvoir en place de réagir avec force, étant donné que ce n'était pas quelque chose que la police pouvait gérer. En ce cas-là, on aurait compris que c'était nécessaire d'utiliser les militaires. Mais ce n'était pas comme ça. Ils avaient toujours l'espace pour le dialogue, pour résoudre cette question de l'armée privée qui restait effectivement un résidu de la guerre civile autour de Jean-Pierre Bemba. Je pense absolument que Jean-Pierre Bemba et les gens de Bemba auraient dû être plus flexibles, eux, auraient dû reconnaître la nécessité de mettre fin à une armée privée étant donné la nouvelle situation. Mais tout cela, c'est pas la question. La question est si ou non c'était bon pour le pouvoir de lancer les armes lourdes, y compris les armes lourdes sur la cité, dans des quantités inimaginables. Évidemment, une telle chose allait tuer beaucoup de gens. Et il y avait beaucoup de gens tués. Et en ce moment, il y a les hôpitaux et les morgues pleines de cadavres. Des civils, qu'est-ce qu'ils ont fait ces civils? Ces civils qui ont voté plein d'espoir dans les élections. Pourquoi est-ce qu'ils doivent subir tout cela? Oui, je trouve que cet acte de la part des autorités était évitable, déplorable et irresponsable. Il y avait un pillage et ce pillage continue. Donc les gens qui ont beaucoup souffert, où le bâtiment a été détruit, où il y a des enfants blessés, où, ça c'est apparemment pas assez. On doit donner à ces soldats-là le droit d'aller piller partout là où ils pensent qu'ils peuvent trouver les choses, et ça continue. Même aujourd'hui, sur l'avenue de la justice, il y avait les petits trials de télévision et des biens qui sont là pour que les camions arrivent et que les soldats les mettent dans le camion et les amènent. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la discipline là?
Arnaud Reichmann de BBC est surpris par la fermeté de diplomates européens.
Mais écoutez, c'est vrai qu'il y a de la fermeté. Je pense qu'il faut revenir à la question de stratégie militaire. Ce qu'on a assisté en fait ici, c'est plusieurs dizaines, peut-être quelques centaines de militaires de Jean-Pierre Bemba qui se sont donc éparpillés dans la ville, qui ont pris le contrôle de la Gombe. Et puis la réaction des forces, ça n'a pas été d'envoyer des militaires avec des armes légères et de faire face à leurs amis militaires pour qu'ils s'expliquent entre militaires par les armes. Non, ça a été de prendre le contrôle des axes, des rues principales, du boulevard du 30 juin, de l'avenue de la justice, avec des pick-up, avec des voitures. Ils ont coupé toutes les voies de ravitaillement des militaires de Jean-Pierre Bemba, ils les ont pilonnés pour les porter à répliquer et à venir à court de munitions. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Les gens des forces gouvernementales ont envoyé du mortier, de l'arme lourde, pendant quasiment toute la nuit de jeudi à vendredi, à partir de jeudi début d'après-midi, presque toute la nuit, et puis vendredi jusque vers 14-15h par là. Donc, il n'y a pas eu un vrai combat corps à corps, il y en a eu très peu pendant la guerre, et puis après, tout ça s'est soldé par le feu vert, les militaires qui, ils ont gagné, ils ont le droit de se servir, de prendre les femmes et les biens. Écoutez, c'est la stratégie, ça s'est passé à Kinshasa, donc tout le monde l'a vu, les ambassadeurs l'ont vu parce que c'était à Kinshasa. Malheureusement, c'est la stratégie de guerre à laquelle on a assisté depuis 1997 peut-être. C'est la même chose, c'est ce à quoi on a assisté ici. Je pense que les ambassadeurs ont réagi avec fermeté parce qu'ils ont été témoins quasiment directs. Et puis ensuite,
c'est pour ça qu'ils ont subi des dégâts, justement.
Je pense que plus parce qu'ils ont été quasiment témoins directs. Maintenant, c'est pas mauvais, tant mieux. Pour une fois que quelqu'un réagit avec fermeté, que des gens donnent leur point de vue, il y avait le SIAT pendant la transition, le comité d'accompagnement de la transition, composé des ambassadeurs. Aujourd'hui, cet organe n'existe plus. Les ambassadeurs continuent à se réunir et à mettre des avis conjoints. On va voir si ça va continuer, si la communauté internationale va continuer à parler d'une seule voix sur le Congo. Ça, c'est des questions qui sont encore en suspens. On voit aussi les États-Unis ont une réaction différente, apparemment. Donc, on s'aperçoit aussi que la notion de communauté internationale qui trouvait son sens au Congo à travers le SIAC est aussi en train de se désagréger ici.
Voilà, Benoît Cambéré, magazine catholique Renaître.
Ben, écoutez, la réaction des ambassadeurs de la communauté de l'Union européenne, hein, en fait, parce que c'est eux qui ont réagi, il faut dire qu'ils sont d'autant plus déçus. J'ai entendu une partie d'usage prématuré et disproportionné, d'autant plus que une certaine opinion dit que le pouvoir en place, c'était le chouchou de l'Union européenne. Alors, ils ont porté ce processus à bout de bras. Ils ont soutenu, il y a eu des sonnettes d'alarme lors de la campagne électorale, usage de biens de l'État et de l'argent de l'État pour la campagne, tout ça. Ils ont fait taire tout ça. Non, il faut qu'on aille aux élections. Ils ont poussé, même de façon suspecte, qu'on aille aux élections, qu'on aboutisse, qu'on atterrisse, même en catastrophe, pour qu'on ait le pouvoir actuel. Mais que ce pouvoir réagisse comme il a réagi, ça les déçoit. Tu penses bien, tu as soutenu quelque chose envers et contre tout, presque. et que le résultat soit celui-là, c'est vrai, tu sors de toi-même et ils sont obligés de réagir comme ils ont réagi. Je parle des ambassadeurs de l'Union Européenne. C'est vrai ce que tu as dit, Jean-Claude, il y en a qui ont été touchés dans leur peau, dans leur chair. L'ambassadeur d'Italie, hein, qui a été pillé par les militaires qu'on appelle loyalistes. Moi, je me demande pourquoi, d'ailleurs, on appelle des militaires des FARDC qui sont payés à l'état-major général. C'est des éléments qui, bon, tous sont des militaires congolais. Mais ils ont pillé là-bas, et c'est connu. Il y a même des films. À ce qu'il paraît, on sait qui a fait quoi. Alors, ça déçoit, effectivement, et on se demande, et ils tirent la sonnette d'alarme. J'espère que entre-temps, à Kinshasa, on va bien capter le message et peut-être essayer de modifier le tien.
Oui, Sonia Mugalu de Horizon 33.
Oui, je pense que je vais dans la même ligne que mes prédécesseurs. Il faudrait essayer de recadrer un peu les choses. Moi, je pense que quelque part, lors du point de presse du chef de l'État, il a dit qu'il faudrait que la loi s'applique à tout le monde. Tout le monde doit être en dessous de la loi. Civil comme militaire, quand vous faites des bévues, il faudrait être sanctionné. Que ce soit du côté des forces loyalistes, que mon contraire ne veut plus appeler loyalistes, s'ils ont commis des bévues, il faudrait qu'ils soient sanctionnés. Les ambassadeurs ont raison de crier, mais quelque part aussi je me demande si c'était nécessaire de le faire de cette manière. Il y a quand même le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'ils sont allés au ministère des étrangères pour donner leur point de vue? C'est encore un problème. Ils sont allés, ils l'ont dit à la face du monde, c'est très bien, c'est bon, ils ont donné leur opinion. Mais moi, je pense que quand il y a des remarques à faire, en tant qu'ambassadeur, ils sont chefs d'une mission diplomatique dans ce pays, ils sont soumis à un ministère des Affaires étrangères, ils auraient dû suivre cette voie, voir le ministre des Affaires étrangères faire leur place. Et surtout...
Donc, je n'apprécie pas cette
façon... La démarche, je ne l'apprécie pas. Le contenu, leur remarque, elle est fondée, c'est très fondée, c'est très pertinent. Ils ont raison d'être mécontents, mais quelque part, ils devaient suivre la logique, voir le ministère des Affaires étrangères, discuter, présenter, faire les remarques, et voir comment essayer de rectifier. Vraiment, je pense que sur ce point-là, ils n'ont pas très...
Oui, je reviens à vous, Arnaud Weitman, mais le temps d'écouter d'abord Prince Nzaou Matadi.
Oui, nous connaissons tous l'apport de l'Union européenne dans l'organisation des élections et même la relance de l'économie dans notre pays. C'est vrai, la déclaration des ambassadeurs de l'Union européenne doit être un signal fort pour le gouvernement en place. C'est vrai, nous sommes un État souverain. Et le gouvernement, le pouvoir en place, a agi en État, disons, souverainement. Et en principe, l'Union européenne n'a pas assimilé à nos affaires intérieures. Mais ces gens-là, il y a certains ambassadeurs dont les résidences ont été touchées. En fait, c'est un peu une réaction sentimentale aussi, on peut le dire. La conséquence à éviter est de voir les investisseurs se méfier de notre pays. Et je me demande comment les cinq chantiers du chef de l'État vont se réaliser. Il faut donc une diplomatie. Et là, je lance un message fort à l'endroit de l'entourage, encore une fois, du chef de l'État. Parce qu'on est en train de suivre, à travers les médias, gouvernementales. En fait, il y a des gens qui passent, qui commencent déjà à attaquer les ambassadeurs. Non, il faudrait qu'on soit un peu plus prudent, un peu plus diplomate. Une diplomatie qui ne repousse pas l'Union européenne parce qu'on tirait la branche sur laquelle on est assis.
Décidément, vous avez des problèmes avec l'entourage du chef de l'État.
Non, je n'ai pas de problème. En fait, nous avons une certaine expérience depuis l'époque de Mobutu. Nous avons une certaine expérience et il faudrait qu'à travers ce genre de mission, on essaye d'aider le chef de l'État. C'est très important.
Ok, merci Prince Zaou, Arnaud Weitman de BBC.
Oui, d'abord moi, cette idée d'accuser les ambassadeurs d'avoir réagi parce que c'est leur propre maison qui ont été piquées, de dire que les raisons sont sentimentales, je trouve ça, je suis pas du tout d'accord avec ça, je pense qu'ils ont réagi parce qu'ils ont été témoins quasiment direct de quelque chose de très très grave, et on attend les deux qui réagissent. Moi, il y a une chose qui m'a dérangé dans leur intervention, c'est le chiffre qu'ils ont donné. Ils ont dit il y a entre 200 et 600 morts. Je trouve que c'est une fourchette beaucoup trop large, on ne sait pas pourquoi, 200 en fonction de quoi, 600 en fonction de quoi, on ne dit rien, on se permet comme si demain il y avait un attentat dans le métro parisien et que des ambassadeurs étrangers disent, oui dans le métro parisien il y a entre 100 et 600, bon c'est plus ou moins là, on a vu de loin. Non, je suis désolé, il faut être sérieux, il faut donner des chiffres, expliquer pourquoi ces chiffres. Alors moi, en me renseignant un peu, il semble que Il y a eu donc, maintenant on sait qu'il y a 135 cercueils qui ont été donnés à des familles de civils. Maintenant, il y a un point d'interrogation sur le nombre de militaires qui ont été tués. C'est là qu'il y a le point d'interrogation. Et l'armée ne donne aucun chiffre, le ministère de la Défense ne donne aucun chiffre. Parce que moi, j'ai vu à la mort beaucoup de militaires qui venaient pour identifier leurs frères d'armes, mais on ne sait pas combien de militaires ont été tués en réalité.
Est-ce que ça veut dire que vous pensez que le chiffre doit être encore au-delà
ou... Non, pas du tout, mais j'ai été surpris et déçu par la manière dont
c'est quand même. Par les chiffres, en fait, c'est important.
Oui, oui, c'est si imprécis, comme ça, de dire voilà, on a des estimations, alors c'est entre 200 et 600. Je trouve qu'on parle de mort, il faut quand même un peu de respect et essayer de donner des chiffres vérifiés et de ne pas s'aventurer avec des suppositions, et surtout quand elles sont très larges, et surtout sans dire pourquoi, d'où elles viennent, pourquoi ça serait 200, pourquoi 600. Non, moi, d'après les chiffres auxquels moi j'ai eu accès, il y aurait autour de 200 morts.
Mais moi, je pense, Jean-Claude,
oui, Sonia Mogalou,
pour compléter Arnaud, que c'est même trop précipité de donner les chiffres.
Pourquoi ?
Parce qu'on continue à ramasser des morts. Jusqu'au ce matin, on a encore ramassé des morts. Vous comprenez ? Moi, je pense qu'il faudrait attendre, après qu'on ait fini le ramassage complet des morts, pour donner un chiffre. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de morts. C'est ça qui est un fait. Il y a beaucoup de morts. Quant aux chiffres, il faudrait être patient, attendre que finalement, après qu'on ait ramassé, que les services de santé, c'est-à-dire les hôpitaux et tout, nous donnent les vrais chiffres.
Là, vous parlez donc du bilan définitif.
Un bilan définitif, mais
on dit
un bilan provisoire, on dit pas entre 200 et 600 quand même. Ça va pas non plus.
Voilà, Prince Ndaou, mais là, on va terminer. Comment vous voyez l'avenir, justement, après tout ce qui est arrivé?
Bon, l'avenir de notre pays, je souhaiterais que ce ne soit pas l'avenir, une histoire semblable à l'histoire du Congo-Brazza, en fait. À l'époque où le président du Souva était au pouvoir, et qu'il y avait le président Sassou qui est réduit après, non, je ne souhaite pas. Et pour qu'on n'arrive pas à ce genre de situation en pleine capitale, ce que nous avons vécu, je le dis, il n'est pas encore tard, c'est très important, parce que la plupart, bonne partie des militaires qui étaient à la Gombe, le militaire, le sénateur Bemba, ont traversé, de l'autre côté du fleuve.
Bon, c'est pas sûr que ce soit tous.
Bon, peut-être pas tous, mais une bonne partie est allée de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'autre côté? Il faudrait, moi je proposerais au pouvoir en place de voir quand même, d'entrevoir la possibilité de négocier, même s'ils sont super puissants. Aujourd'hui, et ils le disent, ils sont super puissants aujourd'hui, mais il y a quand même la possibilité qui est cet atterrissage que tout le peuple congolais veut en douceur. Plus jamais ce spectacle.
Merci, Prince Ndaou. On est arrivé à la fin. En 30 secondes, juste un mot de la fin, oui, Benoît Cambéré.
Ben, tout simplement qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Monsieur Jean-Pierre Bemba est quand même sénateur, ancien vice-président et challenger au deuxième tour. Il pèse près de 7 millions de voix. Je ne vois pas pourquoi lui et le MLC doivent être traités comme ils sont traités. Je suis originaire du Kivu. Je suis outré de constater que le colonel Bissogo et le major Rukunda à Minembwe, on les dorlote, on discute avec eux. Le général Kunda, on discute avec lui, on ne peut pas discuter avec un Congolais qui est HK.
Merci, Benoît. Oui, Arnaud Zaitman, de BBC.
Bon, moi, la question maintenant, c'est, Jean-Pierre Bemba a indiqué qu'il devait voyager pour se faire soigner. Est-ce qu'il va pouvoir partir ou pas? On sait que pour l'instant, les autorités réunissent un dossier à charge contre lui, l'accusant de tentative de coup d'État. J'ai vu un document circuler à ce sujet, on a vu des images montrant l'arsenal dont il dispose. D'autres disent que tout ça, c'est de la fabrication, que c'est un montage. Il faut voir, est-ce que c'était une tentative de coup d'État? Est-ce que c'est juste un dérapage dû à sa volonté de garder ses hommes? On ne sait pas, mais je sais que les prochains jours vont être cruciaux en ce qui concerne le futur de Jean-Pierre Bemba.
Merci Arnaud Reitman. On termine avec Sonia, 30 secondes, peut-être même moins.
Un montage avec les Nations Unies. Alors là, c'est grave, parce que là, j'ai vu les Nations Unies en train de récupérer aussi les armes à Guémena et à Badjolité. Ça, c'est un autre problème.
Déjà recensées.
Alors là, ce n'est pas un montage, parce que là, ils vont confirmer qu'ils avaient ces armes.
Voilà, merci.
Je vais clôturer en disant ceci, la loi doit être appliquée.
Merci.
Il faudra que personne ne soit au-dessus de la loi.
Merci.
Même si c'est le cas, lui-même a dit, même lui, il doit être au-dessus de la loi. Il faut qu'il soit au-dessus
de la loi. Merci, Sonia Mougalou. Nous sommes obligés d'arrêter cette émission, cette tribune de la presse qui a été réalisée par Nadine Foula. Guy Manzangou était à la mise en onde. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain matin à partir de 5h15. Heure de Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays, et sur les ondes courtes sur 11690. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Campus.